Deux jours après les incendies qui ont touché l'école catholique de la mission de Saint-Louis, un suspect a été arrêté. Il faisait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt. Après 6 semaines de collecte, 96% des Calédoniens ont été recensés. 930 agents recenseurs ont sillonné le territoire. Les chiffres commune par commune seront dévoilés fin juillet. La Chambre territoriale des comptes a relevé plusieurs irrégularités dans la gestion et la gouvernance de la SA5, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie. Détails dans ce journal. Les Jeudis du Centre-Ville ont fait leur retour aujourd'hui à Nouméa et c'est Wallis et Futuna qui a été mis à l'honneur. Un événement qui s'achève tout à l'heure à 19h. L'actualité dans le Pacifique. Dès septembre, les Australiens pourront se munir légalement d'un pulvérisateur au poivre pour leur défense. Il s'agit d'une phase de test qui durera 12 mois. Bonsoir à tous. Débutons ce journal avec ces faits de violence sur le territoire. Le dispensaire de Ponérioin était fermé ce jour. Il s'agit d'une décision du personnel soignant face aux nouvelles exactions subies ces derniers jours, Jean-François Baudin.
Le CMS a effectivement été la cible de malfaiteurs. Un véhicule utilisé pour les tournées médicales a été volé avant d'être retrouvé incendié près du stade municipal. Un autre véhicule a été dégradé, une vitre brisée et la batterie volée. Que vont donc devenir les malades en tribu qui ne peuvent pas se déplacer? C'est la question posée sur les réseaux sociaux par le personnel soignant qui a décidé de mettre en place un débrayage. Aujourd'hui, pas de soins, pas de prise de sang, pas de consultation. Le dispensaire est resté fermé. Une plainte a été déposée et une enquête a bien sûr été ouverte par la brigade de gendarmerie de Ponérioin pour trouver les auteurs des faits. Les activités du dispensaire devraient reprendre demain vendredi.
Intervention également ce matin des forces de l'ordre à Ponérioin. Un homme atteint de schizophrénie menaçait sa famille avec un fusil. L'homme en état de crise s'était finalement retranché chez lui. La compagnie de gendarmerie de Pointe-d'Imier ainsi que le GIGN et un hélicoptère ont été mobilisés pour l'interpeller. Au Mont-d'Or, un suspect arrêté mardi soir après les incendies de ces derniers jours à l'école catholique de Saint-Louis. Un homme d'une vingtaine d'années, originaire de la tribu, est soupçonné d'avoir mis le feu à l'établissement scolaire. Le suspect faisait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt. Une arrestation rendue possible grâce au dispositif de surveillance de la gendarmerie et la coopération de certains habitants de la tribu. Les précisions du général Mathéos, commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie.
Comme vous le savez, les gendarmes sont particulièrement présents sur la route de Saint-Louis. Je rappelle qu'il y a plus de 3 escadrons engagés, plus 3 blindés la nuit et 3 blindés le jour. Et cette surveillance de l'école nous a permis de rapidement pouvoir empêcher une nouvelle tentative et puis de procéder à l'interpellation d'un individu. Je précise que nous n'étions pas seuls puisque les mamans, les mamies de la tribu s'étaient organisées pour surveiller l'école et que le principal suspect a été remis à la gendarmerie par un de ses oncles. Donc il faut souligner ce rejet de la part de la tribu, du plus grand nombre de la tribu, de ceux qui sont encore dans cette logique de destruction et de chaos.
Pour rappel, lundi dernier, une pièce de stockage avait été incendiée, puis mardi matin, ce sont des salles administratives qui ont été détruites par les flammes, avant qu'un troisième incendie ne soit déclaré mardi soir. Et puis les évasanes s'enchaînent en ce mois de juin. Dernière évacuation en date, hier soir vers minuit, un puma des forces armées en Nouvelle-Calédonie a été de nouveau déclenché pour récupérer 2 personnes en urgence vitale sur l'IFU. Des patients hospitalisés au dispensaire de Wé. 1h30 seulement après s'être posé à l'IFU, l'équipage déposait les patients et l'équipe médicale embarquée à la base aérienne 186 de Tontouta.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 85% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils ne comprennent pas que 40 personnes puissent être expulsées et exclues de leur tribu à tout haut. Ils sont 15% à dire à l'inverse qu'ils comprennent ces expulsions. Notre question du jour, partagez-vous l'analyse d'Emmanuel Macron quand il déclare que ni la culture pacifique, ni la culture océanienne ou mélanésienne ne sont totalement faites pour les référendums? Si vous partagez cette analyse, vous tapez 1. Si vous ne la partagez pas, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31 46. Un rendez-vous sur notre antenne maintenant, c'est le député Nicolas Metzdorf qui sera demain midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il revient de Paris où il a notamment rencontré le président de la République. Il sera interrogé sur la situation du dossier calédonien après qu'Emmanuel Macron ait repris l'initiative en invitant les parties prenantes à Paris. Le député de la première circonscription reviendra également plus largement sur l'actualité calédonienne. Nicolas Metzdorf, invité de Transparence, c'est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. L'ISEE fait le point sur le recensement. Durant 6 semaines, 930 agents ont sillonné la Calédonie pour compter la population, Jean-François Baudin.
Une opération qui a lieu tous les 5 ans pour connaître la population calédonienne, mais aussi récolter un certain nombre d'autres données statistiques. Et même si elle a été rallongée d'une semaine en raison des difficultés rencontrées par les agents recenseurs dans certains secteurs, la collecte a été un succès, selon Jean-Philippe Groutier, chargé de mission recensement à l'INSEE.
Un très grand merci à l'ensemble de la population. On a l'immense majorité des gens qui ont accueilli l'agent censeur et qui ont répondu. On avait quelques craintes au départ face à la méfiance actuellement que les gens pouvaient avoir d'ouvrir leurs portes. Peut-être ce qu'on peut signaler, c'est que ça a été un petit peu plus long pour convaincre les gens de répondre. Et puis, la méfiance s'est traduite quand même par le fait que assez souvent, l'agent censeur, il est resté sur le pas de la porte. Et à l'arrivée, la quasi-totalité des habitants ont répondu.
110 000 logements ont été recensés. Dans le détail, 92% des résidences principales ont été recensées avec une réponse à toutes les questions du questionnaire. 4% en donnant uniquement le nombre d'habitants du logement, mais sans répondre aux questions annexes. 4% n'ont pas du tout été recensés. Une collecte qui est donc quasiment exhaustive, en tout cas largement supérieure à ce qui est pratiqué en métropole. On retrouve Jean-Philippe Groutier.
En métropole, 40% de population observée dans les grandes communes, c'est largement suffisant pour avoir une très bonne précision. Mais en Nouvelle-Calédonie, on est bien au-delà de ça. Donc la Nouvelle-Calédonie aura des chiffres, notamment sur l'ensemble des données statistiques, plutôt plus fiables que ce à quoi on est habitué en métropole.
Rappelez-nous un petit peu la méthode pour les fameux 4% de logements qui n'ont pas été recensés. Vous allez, de manière statistique, établir le nombre d'habitants.
Ces 4% ne seront pas oubliés, je dirais, dans la population. On va, à partir d'une analyse de là où ils sont, du type d'habitat, etc., considérer qu'il y a en moyenne un nombre d'habitants par logement qui correspondra au logement comparable dans la même zone, etc. Donc on va bien rajouter, si on peut dire, des habitants dans ces logements.
Durant les semaines qui viennent, 8 opérateurs vont travailler pour établir le chiffre global de la population par commune. Des données essentielles, notamment pour établir le fonds intercommunal de péréquation qui détermine les dotations aux mairies. Jusqu'à la fin de l'année, les questionnaires remplis lors du recensement seront scannés et pris en compte. Et les premières études complètes sortiront en 2026.
L'objectif, c'est que d'ici un mois, on puisse communiquer ce qu'on appelle les populations de référence, c'est-à-dire les populations de chacune des communes, mais la population, juste le chiffre de population avec les différentes catégories de population légales. Et puis, d'ici début 2026, de fournir et de mettre en ligne l'ensemble des informations. Le recensement est là pour essayer d'éclairer un certain nombre de débats qui ont lieu dans la société calédonienne. C'est vrai qu'on pourra mieux voir, suivant l'évolution de la population par rapport à 2019, voire 2014, quelle est l'importance du solde migratoire, mais sur l'ensemble de la période. Le recensement ne dira rien, au moins à ce stade, sur ce qui s'est passé entre, 2019 et 2024, et 2024-2025. Ça, non.
Et je rappelle que cette opération de recensement a été entièrement financée par l'État.
Et j'ajoute que nous reviendrons sur le recensement demain, puisque Jean-Philippe Groutier, le responsable du recensement à l'INSEE, sera notre invité du matin à 7h30. 17h54, première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire. À tout de suite.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur. Alors n'hésitez plus. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le 4 juillet à 14h. 371 francs par SMS. Règlement du jeu disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance. Envoyez RRB au 40-20.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La Cinef au soir, Léana Colombo.
Maintenir la commande publique pour soutenir le secteur du BTP. C'était le thème ce midi des Jeudis de l'économie, alors que la province sud annonce avoir mobilisé 12 milliards de francs, dont 6,5 milliards injectés directement via des appels d'offres, Jean-François.
Une aide nécessaire qui correspond aux moyens financiers actuels de la province sud. Elle est évidemment loin de couvrir les besoins du secteur du BTP, qui en quelques années a perdu environ 5,000 emplois. Les émeutes ont aggravé brutalement une situation qui était déjà compliquée, même si les apparences sont parfois trompeuses, a expliqué Éric Lafitte de l'entreprise Arbé. Il a été élu il y a quelques jours président de la Fédération calédonienne du BTP.
Beaucoup de gens pensent que les entreprises, c'est résilient, ça tient, etc. Il y a quelque chose de caché là-dedans, c'est qu'on a un énorme problème de temporalité. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les entreprises avaient des chantiers avant émeute. Un chantier, ça dure 1,5 à 2 ans. Donc les chantiers sont en cours, les grues sont en train d'être démontées. C'est la fin des aides du chômage partiel et les entreprises ont de moins en moins de travail. Ce qui va se passer, c'est que après, les corps d'État vont travailler sur les chantiers et puis terminer les chantiers dans 5-6 mois. C'est-à-dire que là, il n'y a rien de nouveau, rien de neuf depuis avant émeute. Donc la situation, jour après jour, elle se dégrade, qui se cumule avec l'absence d'aide. Là, on craint un effondrement des entreprises. On avait des entreprises qui tiennent dans le temps parce qu'on avait des entreprises saines et bien structurées. Mais jamais on tiendra. Les entreprises vont tomber une à une à partir du mois de juillet. La situation, elle est plus que grave. Elle est incroyablement dramatique.
Dans ce contexte plus que fragilisé, la province sud essaye donc à la hauteur de ses moyens de soutenir ce secteur en difficulté en donnant notamment aux entreprises de la visibilité sur les chantiers à venir. C'est ce qu'a expliqué Jean-Pierre Bréman, le directeur de la DAEM, la Direction de l'aménagement de l'équipement et des moyens de la province sud.
On a souhaité, nous, à notre niveau, pouvoir relancer la machine, déjà revenir au montant qu'on avait avant la crise, donc remonter à plus de 6 milliards pour ce qui est du BTP. Et donc, ce qu'on a souhaité, c'est effectivement être plus lisible sur nos interventions et donc de pouvoir communiquer sur nos appels d'offres pour montrer qu'on est en pleine relance et qu'on veut soutenir le domaine du BTP. Suite aux émeutes, on a eu un gros problème de trésorerie. Et là, aujourd'hui, avec l'aide substantielle de l'État pour la reconstruction, c'est 1,8 milliard là, qui nous sont redonnés pour les reconstructions dans les bâtiments. Et donc, depuis le mois de mars, on met tout en œuvre pour pouvoir établir ce plan. D'où justement cette visibilité sur nos appels d'offres à venir pour que toutes les entreprises puissent avoir cette information-là, leur redonner un petit peu de confiance et de visibilité. On sait bien que la province ne fera pas tout, puisque même si on arrive à faire 6 milliards, c'est une goutte d'eau, mais en tout cas, nous, la province, on se donne tous les moyens pour justement relancer le bâtiment avec toutes nos opérations en cours.
Il y a une dizaine d'années, le BTP pesait environ entre 100 et 120 milliards de francs. Il est estimé aujourd'hui à moins de 40 milliards par an. Autre révélateur important des difficultés du secteur, la commande publique, qui représentait 40% du marché, en représente aujourd'hui 80%, car la commande privée est au point mort. Cette programmation et ces 6,5 milliards d'appels d'offres de la province sud arrivent donc au bon moment, même si les PME et les TPE du BTP restent très inquiètes. Écoutez Stéphane Nutringer de l'entreprise TCE, Christophe Dautieux de l'entreprise ACTB et Thomas André de l'entreprise ATEP.
Ça donnera une bouffée d'air aux entreprises, mais toutes les entreprises n'auront pas de marché. Non, on est beaucoup sur les marchés publics, donc il y a une concurrence accrue entre les entreprises, donc des baisses de marge. Dans 2 mois, vous allez avoir des plans de licenciement, des destructions d'entreprises, on n'y échappera pas.
On répond à des appels d'offres, on n'est plus tout seul. On est une cinquantaine de sociétés qui sont autour de la visite avant réponse. C'est plus de la loterie aujourd'hui qu'autre chose.
C'est beaucoup plus compliqué après émeute et avec des appels qui ne se font plus, les particuliers qui n'appellent plus comme cela était avant et du coup il n'y a plus de visibilité quoi, donc c'est compliqué.
Voilà donc pour ces extraits des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu qui sont à retrouver en intégralité sur notre site internet rrb.nc.
Le MEDEF poursuit sa réorganisation après l'Assemblée Générale élective du 5 juin dernier. On se souvient que les adhérents ont réélu Mime Sidélé à la présidence du syndicat patronal. Le vice-président et Bertrand Courte et le trésorier Yannick Briffa. À eux trois, ils constituent le bureau. Le comité exécutif avait lui aussi été renouvelé. Aujourd'hui, le nouveau comité exécutif s'est réuni pour désigner 9 de ses membres qui siégeront au comité directeur. On y retrouve les 3 membres du bureau auxquels il faut ajouter Julien Barras pour la section BTP, Ronan Délé pour la section commerce, Mathieu Odeimi pour la section industrie, Dominique Catraoua pour la section mine et métallurgie, Alexandre Lafleur pour le tourisme et Jean-Pierre Cuéné pour le tourisme. La Chambre territoriale des comptes a rendu public un rapport rapport concernant la SACINC, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie. Et la CTC a relevé plusieurs irrégularités dans sa gestion et sa gouvernance, Jean-François.
La SACINC est le seul organisme de ce type sur le territoire. Elle a pour mission de collecter et de répartir les droits d'auteur, mais aussi de soutenir la culture dans le domaine musical. Pourtant, elle ne possède pas l'agrément nécessaire pour la perception et la distribution des droits d'auteur. La CTC a noté une diminution de collecte des droits d'auteur, moins 13% entre 2019 et 2023, et demande donc de mettre en place un plan d'action pour informer les diffuseurs sur leurs obligations. Autre problème, les statuts de la société prévoient la gratuité des fonctions d'administrateur. Toutefois, une rémunération mensuelle est versée au président du conseil d'administration et des jetons de présence sont payés aux administrateurs. La CTC demande donc l'arrêt de ces versements. Enfin, en raison du changement de mode de droit de reproduction, avec par exemple la disparition des reproductions mécaniques, c'est-à-dire par CD, la SACINC doit revoir sa stratégie de frais de gestion. Elle en prélève une partie au titre de son propre fonctionnement, mais aussi pour alimenter le fonds des œuvres sociales et culturelles. Autant de dépenses qui pèsent sur les droits reversés in fine aux bénéficiaires, c'est-à-dire les artistes, note la CTC. À ce sujet, la Chambre territoriale des comptes relève que le niveau élevé de trésorerie atteint fin 2023 par rapport aux droits perçus est un indicateur des marges de progrès dont dispose la SACINC pour diminuer ses frais de gestion et pour accélérer la répartition et le versement des droits déjà perçus aux bénéficiaires.
Les îles Wallis et Futuna sont à l'honneur, place des Cocotiers. Les Calédoniens ont jusqu'à 19h pour découvrir les richesses de la communauté wallisienne et futunienne installée en Calédonie. L'occasion de mettre à l'honneur leur savoir-faire au travers d'animations, de musique, mais aussi de danse. Les exposants présentent divers produits, notamment de l'artisanat, des tenues traditionnelles et bien sûr des plats. Les visiteurs sont nombreux à circuler entre les différents stands proposés.
Nous sommes là pour promouvoir la culture, pour démontrer notre culture, la tradition que nous vivons à travers la coutume aussi et à travers nos danses et nos festivités, mais aussi de nos mets traditionnels.
Et qu'est-ce que l'on peut voir sur les tables?
Plein de choses, surtout les plats typiques wallisiennes à base de, comme le bout de cochon, le faïka. Artisanat, nous avons le savoir-faire de toutes les mamies d'ailleurs. Ça part de porte-chéqué, en tapas, les tableaux. Ma maman, elle le fait, des porte-passeports, des cadres. On a des mamies à côté qui tissent aussi et qui font des dressages de taovala. Le taovala, c'est important chez nous, c'est ce que les gens y mettent quand ils vont faire la coutume. C'est comme une ceinture avec des franges à base de feuilles de bourrao.
Ça donne envie, hein, ça a l'air bien bon tout ça. Il y a beaucoup de choses très variées, donc et on va pas pouvoir goûter à tout, je pense. On va faire des choix et le sucré, il faut faire attention.
C'est une très bonne initiative pour pouvoir découvrir les traditions, l'artisanat, la cuisine des îles Wallis et Futuna, tous les plats traditionnels, les danses, tous les colliers, tout l'artisanat que font Wallis et Futuna.
Je suis en train de regarder un peu les travaux artisanaux. Il y a quand même de la variété. C'est joli, c'est travaillé.
Et si vous n'avez pas encore découvert ce jeudi du centre-ville spécial Wallis et Futuna, c'est jusqu'à 19h sur la place des Cocotiers. 18h passées de 3 minutes. Allez, seconde pause avant de voir l'actualité dans la région.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Léana Colombo.
Et l'actualité dans la région avec cette expérimentation dans le territoire du nord de l'Australie. Ses habitants vont être autorisés à se servir légalement d'un pulvérisateur au poivre pour leur défense. Les explications de Jean-Pierre Zajac.
La chef de gouvernement du territoire du nord, Léa Finocchiaro, a indiqué que cette initiative, je la cite, va améliorer la sécurité des habitants du territoire et va leur offrir la possibilité de se protéger si nécessaire. À partir de septembre et pour une période d'essai de 12 mois, ils seront donc autorisés à se munir d'un pulvérisateur de défense personnelle et à en faire usage dans des conditions légales très strictes. Nous renforçons les effectifs de la police, a déclaré Lia Finocchiaro, mais les habitants du territoire doivent également disposer d'outils légaux pour se protéger. les territoriens respectueux des lois et âgés de plus de 18 ans seront autorisés à acheter légalement ces pulvérisateurs auprès des armuriers agréés, a-t-elle précisé. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Un mot pour vous dire que le village de la New Caledonia Groupama Race prend dès demain 9h ses quartiers à l'école de voile du Cercle Nautique Calédonien. Le village s'étendra sur la pointe Brunelet et la digue, offrant un espace convivial et dynamique pour profiter pleinement de l'événement. Je rappelle que la 8e édition de la Groupama Race débutera ce dimanche et s'achèvera le 22 juin prochain. 23 bateaux sont engagés dans la compétition cette année. Et puis la grande famille du tennis calédonien est endeuillée. Nous avons appris hier la mort de Jackie Bégaud à l'âge de 92 ans. Jackie Bégaud évoluait sous les couleurs de la section tennis de l'Olympique de Nouméa dans les années 60, mais aussi avec l'équipe de Nouvelle-Calédonie. Il avait notamment participé à plusieurs éditions des Jeux du Pacifique entre 1963 et 1975. Sur les cours, c'était un homme respecté et admiré, notamment par Gérard Winter, ancien CTR à la Ligue calédonienne de tennis et désormais conseiller à la direction de la jeunesse et des sports du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Surtout, nous étions très jeunes et Jackie, c'était un petit peu notre idole, en particulier sur les épreuves de double. Il était très athlétique, il bougeait beaucoup au filet et il avait une volée toujours remarquable. Nous, jeunes joueurs, je pense à Jean-Yves Desmazures, moi-même, voilà, on était vraiment fans de ce joueur qui nous faisait vraiment vibrer quand on le voyait jouer en double sur les cours du Mont Coffin en particulier, puisqu'à l'époque, il y avait un peu que ces terrains-là. Pour moi, c'est mes premiers jeux en 75 où Jackie avait des responsabilités dans le monde du tennis, les jeux de Guam, et voilà, c'était un de nos dirigeants et qui nous conseillait et pour lequel on avait beaucoup de respect.
Jackie Bégaud avait aussi porté les couleurs de la sélection calédonienne de football. C'était dans les années 50. Il s'est éteint hier au CHS où il était pris en charge des suites d'une longue maladie. 18h07, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous, Nicolas.
Oui, alors cette nuit, sur la pointe nord, le nord-est et le nord des Loyautés, les nuages seront prédominants et donneront des averses isolées. Ailleurs, le temps sera sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Le vent de sud-est soufflera entre 10 et 15 nœuds sur la moitié nord et le nord des Loyautés, toujours 5 à 10 nœuds sur les autres régions. Les températures de la nuit oscilleront entre 20 et 23 degrés près des côtes et de 16 à 19 degrés dans l'intérieur et aux îles. Demain matin, les nuages domineront sur la majeure partie du territoire avec quelques averses isolées sur Bélep, la pointe nord et le nord-est. De belles éclaircies se produiront sur l'ouest et les Loyautés. L'alizée d'est-sud-est soufflera autour de 10 nœuds, localement 10 à 15 nœuds sur le nord-est et de 15 à 20 nœuds sur la pointe nord, Léana.
Merci beaucoup, Nicolas. C'est ainsi que s'achève cette édition.